Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, l'heure de l'information. Avec vous, Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une des paroles aux actes, Donald Trump a appuyé sur le bouton rouge des droits de douane. Le président américain a décidé d'augmenter à 25% les taxes à l'importation de ses voisins. Le Canada a déjà annoncé la réplique. Au Panama, on en est encore au stade des menaces. Marco Rubio devrait réitérer sur place les ambitions de son président. Il veut récupérer le fameux canal de Panama. Le nouveau chef de la diplomatie américaine entame une tournée régionale. Enfin, le régime des talibans entend exploiter à fond les mines dont le pays regorge, quitte à s'affranchir de toute considération environnementale. Igor Strauss nous expliquera. Le Mexique et le Canada ont déjà annoncé des mesures de rétorsion. La Chine aussi. Des réactions rapides à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane à 25% à ses voisins et à 10% à Pékin. Il faut dire que le décret signé par le président américain est loin d'être une surprise. Il avait menacé ces pays depuis longtemps pour leur supposée inaction face au trafic de drogue. Des voisins aussi accusés de laxisme en matière d'immigration illégale. Au Canada, le premier ministre a rapidement pris la parole. Justin Trudeau a annoncé des mesures en riposte, revue des représailles avec à Québec Pascal Guéricola.
Jus de fruits, chaussures, meubles, vins, équipements sportifs, la liste des biens américains que le Canada va taxer touche une multitude de produits. Une réplique que l'on pourrait qualifier d'œil pour œil, dent pour dent, version commerciale. Et pourtant, tout en annonçant ces mesures de rétorsion, le premier ministre Justin Trudeau a souligné la profondeur de la relation avec le peuple américain. Un brin lyrique, il a rappelé les nombreuses fois où Canadiens et Américains se sont épaulés au cours de l'histoire. Cependant, le dirigeant estime qu'il n'a pas le choix de riposter. Appelant à l'unité, il demande à ses concitoyens de privilégier les produits canadiens dans leurs achats. Par exemple, le whisky local plutôt que le bourbon américain. Et il invite aussi ses compatriotes à visiter le Canada au lieu de se rendre sur les plages américaines. Difficile de dire jusqu'où ira la guerre commerciale entre les deux pays. Au cours des derniers jours, Donald Trump n'a pas daigné répondre aux appels de Justin Trudeau. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et puis Donald Trump a laissé entendre que l'Union européenne serait aussi bientôt concernée par une hausse des taxes. Marco Rubio, élu envoyé pour une tournée en Amérique centrale, première étape pour le chef de la diplomatie de Donald Trump, le Panama. Le locataire de la Maison-Blanche veut que le canal de Panama redevienne américain. Voie navigable stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique, il a été construit par les États-Unis mais appartient au Panama depuis 1999. Les autorités panaméennes ont déjà prévenu, il n'y a rien à négocier. La correspondance sur place de Grégoire Pourtier.
Pour sa première visite dans un pays étranger, Marco Rubio va-t-il se montrer aussi agressif que Donald Trump ? Le secrétaire d'État arrive au Panama en pleine crise diplomatique après les déclarations inattendues du président américain qui menace de récupérer le canal, quitte à employer la force. La députée indépendante Valkyria Chandler-Dorsey, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, est effarée par les revendications et les accusations de Donald Trump.
Nous savons que c'est un négociateur. Il a même pu se comporter de façon brutale envers certaines autres nations. Ce qu'il cherche probablement avec ces menaces, c'est à prendre le dessus avant d'entamer des discussions. Pour nous, le principal, c'est notre souveraineté sur le canal, qui est non négociable. Il appartient et continuera d'appartenir au Panama et aux Panaméens. Notre position est d'appeler à des discussions politiquement adultes en se basant sur les traités pour que soit respecté le droit international.
Les Panaméens insistent sur l'uniformisation des tarifs ajustés en fonction de la taille du bateau et de la valeur de sa marchandise. Même s'ils sont largement les principaux utilisateurs du canal, les États-Unis sont donc traités comme les autres pays sur le plan commercial. En revanche, ils bénéficient déjà davantage pour leur marine militaire et ont grand besoin de la collaboration du Panama sur la question migratoire. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Activité diplomatique soutenue pour l'administration américaine. Le Premier ministre israélien sera lui reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche mardi. Israël qui confirme la reprise des négociations indirectes avec le Hamas. Des pourparlers s'engagent dès demain sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu après un nouvel échange otages contre prisonniers hier. Cette étape doit permettre la libération des derniers otages israéliens. 76 sont toujours dans la bande de Gaza. 34 seraient morts. Elle prévoit aussi la fin définitive de la guerre à Gaza. Après avoir installé la transition à Damas et pris le titre de président par intérim, Ahmad al-Sharaa effectue, lui, sa première visite officielle à l'étranger. Il est à Riyad aujourd'hui. Oriane Verdier du service international nous a rejoint. Bonjour Oriane.
Bonjour.
L'Arabie saoudite s'est rapidement affichée en alliée des nouvelles autorités syriennes.
Oui, c'était d'ailleurs également le premier déplacement à l'étranger du ministre des Affaires étrangères syrien il y a un mois. Aujourd'hui, Ahmad al-Sharaa rencontre le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui dirige de facto l'Arabie Saoudite. L'urgence pour le président par intérim de la Syrie est avant tout de trouver des soutiens économiques. Son pays est détruit et la situation humanitaire est catastrophique. Ahmad al-Sharaa rend donc visite à un potentiel investisseur de taille, mais également à un allié qui pourrait l'aider à réintégrer son pays au sein du monde arabe et sur la scène internationale. Il y a deux semaines, d'ailleurs, Riyad avait accueilli dans cette optique les chefs des diplomaties européennes et du Moyen-Orient. La semaine dernière, en visite à Damas, le ministre des Affaires étrangères saoudien avait renouvelé l'appel à lever les sanctions imposées par la communauté internationale à la Syrie de Bachar. Il y a quelques mois, le pays était encore le territoire de l'Iran, principale puissance concurrente de Riyad dans la région. Il y a donc là une opportunité. Sous Bachar al-Assad, l'Arabie saoudite avait tenté ces dernières années un rapprochement avec Damas, mais le processus de normalisation s'était confronté au manque d'engagement du pouvoir syrien, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue.
Oriane Verdier du service international d'RFI. Au sujet de la guerre en RDC à présent, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont fermement condamné l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est du pays. Un communiqué diffusé par le Canada, qui préside le groupe des grandes puissances économiques, évoque un mépris flagrant de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Plus tôt dans la semaine, l'ONU s'était inquiétée de l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda au-delà de Goma vers le sud Kivu et la ville de Bukavu. Des figures clés du groupe État islamique ont été éliminées en Somalie, déclaration des autorités locales ce matin, après des frappes américaines sur plusieurs cibles du groupe djihadiste dans la région du Puntland. Selon le président américain, l'opération aérienne visait un responsable de l'organisation chargé de planifier des attentats. Il y a quelques mois, l'ONU avait prévenu que la présence de l'État islamique se renforçait en Somalie. À 3 semaines des élections législatives, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Berlin en ce moment même. Un appel à la mobilisation après le rapprochement entre la droite et l'extrême droite. La CDU et l'AFD ont tenté ensemble de faire adopter une proposition de loi sur l'immigration, une alliance inédite depuis la Seconde Guerre mondiale dans un pays habitué à dresser un cordon sanitaire étanche autour de l'extrême droite. En Afghanistan, les talibans ne s'affranchissent pas uniquement des droits humains, le pouvoir à Kaboul, mais aussi à mal l'environnement. Pendant plusieurs décennies, à cause de la guerre, les nombreuses mines du pays étaient épargnées d'une exploitation à grande échelle. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Désormais, le gouvernement des talibans courtise les investisseurs pour les exploiter, y compris à l'international, et c'est l'environnement, Igor, qui en pâtit.
Oui, émeraude, rubis, or ou lithium, le sous-sol afghan regorge de ressources d'une valeur de 1000 milliards de dollars, d'après des estimations de l'ONU de 2010 et 2013. Pour s'assurer une manne financière, le gouvernement taliban souhaite voir revenir tous les investisseurs étrangers qui avaient déserté le pays jugé trop dangereux. Alors si la plupart craignent d'être associés à l'émirat islamique, d'autres pays comme l'Iran, le Qatar et surtout la Chine ont sauté le pas. Ainsi, la compagnie chinoise publique chinoise MCC intervient sur le deuxième plus grand gisement de cuivre au monde à 40 km km de Kaboul. Et depuis 2021, des entreprises chinoises ont également remporté de grands projets de mines d'or, de cuivre ou de néphrite. Mais l'industrie minière est une activité polluante. Les rebuts de mines non traitées peuvent contaminer le sol et l'eau. Certains observateurs craignent ainsi que des multinationales profitent d'une régulation moins stricte pour maximiser leurs profits au détriment de l'environnement. Le ministère des mines afghans affirme, lui, avoir conservé la législation d'avant 2021 pour la sauvegarde de ces mines.
Igor Strauss, merci.